Bonsoir. Alors, j'ai l'honneur de présenter Delphine Dussert-Galina et surtout son travail sur le dialogue interreligieux entre discours officiel et initiative locale. Alors, Delphine Dussert-Galina, que vous voyez ici, malgré son jeune âge, est tout de même née au XXe siècle. Voilà, elle est quand même née au XXe siècle. On restera sur la date un petit peu flou. Elle est bordelaise, elle est née à Bordeaux, et elle a fait ses études à l'université Michel de Montaigne Bordeaux 3, études brillantes, avec un très bon mémoire de maîtrise sur le syncrétisme religieux, et ses études aboutissent en 2004 à l'agrégation d'histoire. Alors, elle a été pendant plusieurs années chargée d'enseignement à TER à l'Université de Bordeaux 3. Elle est professeure actuellement au lycée Rudel de Blaye. Et pendant ces années, elle a mené des recherches extrêmement importantes qui ont donné naissance à une thèse que vous ne voyez pas, puisque c'est un ouvrage qui est tiré de la thèse. Alors, vous pouvez constater que la présentation en est plaisante. Le sujet en est resté assez austère, mais après tout, c'est un travail de recherche et ça n'est pas un roman policier. Et je dirais que Delphine Dussert-Galina, et je vais immédiatement lui céder la parole, en lui posant une question d'ailleurs, est une chercheuse extrêmement active. Elle est membre toujours du CEMC, c'est-à-dire le Centre d'Histoire Moderne et Contemporaine de l'Université de Bordeaux 3. Elle est membre d'un groupe qui, pour moi, est un petit peu mystérieux et qui s'appelle le GPSL, mais il ne s'agit pas du tout de problème d'Afrique du Nord, il s'agit du groupe social et religieux sur la religion et la laïcité. Mais vous m'aviez mis GPSL, j'étais obligé de développer parce que ça fait très mouvement. Et c'est quelqu'un de très moderne, en particulier au niveau de l'utilisation des techniques actuelles. Elle s'est initiée à des subtilités informatiques qui, moi, m'échappent. Et elle a animé récemment, Bordeaux 3, un colloque extrêmement intéressant sur la femme sous divers aspects. Voilà, je voulais simplement vous la présenter en quelques minutes. Et je vais lui poser tout de suite une première question sur ce travail qui est publié aux presses universitaires de Rennes, qui a été publié très vite aux presses universitaires de Rennes. Et ma première question, c'est la suivante. La question du dialogue interreligieux est une question délicate, au contour extrêmement flou, qui touche à une histoire mouvante que l'on appelle entre nous « histoire du temps présent ». Alors, pourquoi avez-vous choisi ce sujet et comment l'avez-vous abordé? Par quelle source? Avec quelle méthode? Sans être trop technique, bien entendu.
Je vais essayer. Je remercie monsieur le professeur Agostino, qui fut donc mon directeur de thèse et le préfacier de cet ouvrage, et un ami, si je peux dire ça devant notre public ce soir. Je remercie également toutes les personnes présentes et je vais essayer de vous présenter le mieux possible et le plus simplement possible aussi le contenu de mon livre sur donc, le dialogue interreligieux entre discours officiel et initiative locale. Alors, le choix de ce sujet remonte finalement à ma maîtrise, hein, on peut dire, ma maîtrise d'histoire, puisque je me suis assez tôt intéressée à la question d'abord des lieux saints de Palestine au XIXe et XXe siècle, puis dans un autre travail au syncrétisme religieux, comme M. Agostino l'a dit. Et je tournais finalement autour de ce sujet sur le dialogue interreligieux. Et lorsque j'ai commencé ma thèse en 2005, c'était une notion qui était beaucoup moins connue qu'aujourd'hui, beaucoup moins démocratisée, on va dire. Et il m'a semblé, d'ailleurs, en faisant des recherches historiographiques, qu'il manquait une approche à plusieurs échelles, donc multiscalaires, et une approche sur un temps un peu long, donc la seconde moitié du XXe siècle. Je suis partie avec des souhaits, D'abord, celui de ne pas restreindre le sujet à un seul aspect, que ce soit théologique, associatif ou encore institutionnel. D'appréhender les grandes évolutions, donc il fallait pour cela faire un travail sur un temps assez long, de 1945 à nos jours en l'occurrence. Je souhaitais également faire un vrai travail d'histoire, c'est-à-dire ne pas faire un travail militant, comme c'est parfois le cas sur un sujet comme celui-ci. Et enfin, il me semblait que le dialogue s'incarnait à travers les acteurs et les lieux. Les lieux donc que j'ai circonscrits à la France. Il m'a fallu effectivement opérer des choix, car le dialogue interreligieux, c'est un dialogue qui n'est pas l'œcuménisme. Et j'ai souhaité traiter essentiellement du judaïsme, du christianisme et de l'islam et des relations entre les trois familles monothéistes. La méthode a été assez complexe à établir, une méthode donc historique, d'abord parce que c'est un sujet d'histoire très contemporaine et que nous sommes confrontés à un problème de source, d'accessibilité des archives, notamment celles qui sont postérieures à 1905 et relatives aux différents cultes, sont considérées comme des archives privées, hormis dans les trois départements concordataires. Même si depuis 2008, une loi a un petit peu restreint les délais de communication des archives publiques, il n'empêche que le classement de ces archives prend du temps et qu'il a fallu faire de nombreuses démarches, demander de nombreuses dérogations pour avoir accès à certains fonds. Il a donc fallu diversifier ses sources. Je suis donc allée du côté des sources écrites, à savoir les bulletins d'information internes, mais aussi des correspondances, des documents officiels, des archives privées parfois, des revues qui étaient publiées par des groupes plus ou moins importants, des bulletins diocésains évidemment, ou encore des publications militantes. J'ai eu la chance que certains services de documentation et d'information aient été mis en place dans les années 1960-70, à commencer par le service d'information et de documentation juif-chrétien de la Congrégation Notre-Dame de Sion, que l'on appelle le SIDIC, et qui se trouve à Paris, ainsi que le service des relations avec l'islam, le SRI, et lui aussi qui se trouve à Paris, qui comporte un fonds extrêmement riche, avec des sources par contre très hétérogènes et très diversifiées. À Aix-en-Provence, à la bibliothèque Méjeanne, les archives personnelles de Jules Isaac ont été déposées en 1994, ce qui m'a permis là d'appréhender une autre facette du dialogue, surtout judéo-chrétien, à travers la figure de Jules Isaac, qui est une figure extrêmement centrale dans mon travail. Et pour terminer, les témoignages oraux. Alors, ayant la chance justement de travailler sur une période contemporaine, il ne fallait pas passer à côté de ces témoignages qui souvent comblent les vides laissés par les sources écrites. Et je suis allée à la rencontre d'une cinquantaine d'acteurs, que ce soit des acteurs locaux ou plus nationaux. Ici, le père Michel Lafon, que je remercie d'être venu ce soir, un acteur, un pionnier du dialogue islamo-chrétien. Évidemment, le cardinal Jean-Pierre Ricard, sur Paris, le cardinal Lustiger, que j'ai rencontré juste avant il était un petit peu malade déjà, et puis des acteurs très divers, des groupes, des associations, laïcs, religieux. J'ai souhaité diversifier autant que possible ces entretiens. Il faut dire aussi qu'un certain nombre de personnes que j'ai sollicitées ne m'ont jamais répondu. Donc, ils ne figureront pas dans ce livre.
Tant pis pour eux. Tant pis pour eux.
Deuxième question.
Oui, j'imagine un peu d'ailleurs le dialogue avec le cardinal Lustiger.
Oui.
Cette jeune personne était partie à la rencontre du cardinal.
Un peu naïve.
Elle était partie un peu naïve à la rencontre du cardinal Lustiger. Puis finalement, vous aviez eu le dernier mot. Parce qu'il était gentil au fond, même s'il était brusque. Alors, nous vous remercions. Et deuxième question que j'avais prévue, j'espère qu'elle ne vous ennuiera pas, c'est quel regard chronologique portez-vous sur cette histoire capitale au fond, mais qui est en train de se faire et qui continue, et qui continuera, il faut l'espérer. Alors, en effet, y a-t-il des résultats palpables? Y a-t-il des réalisations concrètes? Est-ce qu'il y a des étapes dans ce dialogue interreligieux depuis que vous l'avez pris, c'est-à-dire 1945, est-ce que vous voyez des grandes césures chronologiques et des personnes peut-être qui ont pu les susciter ?
Alors, dans le cadre de ma thèse de doctorat, puisque c'est ce qui a motivé ce travail à la base, j'ai d'abord fait une recherche un petit peu en amont de la fin de la Seconde Guerre mondiale pour savoir justement si la Seconde Guerre mondiale était réellement une césure importante. Il se trouve que la première des choses qui m'a semblé fondamentale, c'est la diversité religieuse en France et son traitement politique et religieux qui va déterminer fortement la nature des relations entre les communautés religieuses. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, donc en 1939, on compte environ 800 000 protestants, 320 000 juifs, évidemment des millions de catholiques, mais après plus ou moins pratiquants, donc ça c'est une autre question. Seulement quelques milliers d'orthodoxes et des musulmans vivant essentiellement dans les territoires coloniaux. Dans l'entre-deux-guerres, il y a l'essor d'une islamologie chrétienne, incarnée notamment par Louis Massignon ou encore Louis Gardet et le protestant Henri Corbin, qui pose les bases d'un dialogue théologique entre l'islam et le christianisme. Sur le plan judéo-chrétien, là aussi, déjà dans l'entre-deux-guerres, nous avons des exemples de groupes. On cite souvent l'exemple de l'association Amici Israël, qui a été créée en 1926 par une juive néerlandaise convertie au catholicisme, qui s'appelle Francisca Van Leer, et qui était à la base conçue pour la conversion des juifs. Rapidement, même très rapidement, puisque créée en 1926, cette association a été dissoute par un décret du Saint-Office, car, selon le Saint-Père, elle était trop versée dans l'apologie du sionisme. Donc ça n'a pas plu au pape. Mais cela n'a pas empêché ce mouvement d'amitié, de philosémitisme, vraiment, incarné par des personnalités catholiques comme le père Joseph Bonsirvin, l'abbé Montchanin ou encore Jacques Maritain, qui ont chacun à leur manière affirmé leur attachement au judaïsme comme étant une partie de leur racine religieuse, de leur identité chrétienne, véritablement. En 1936, un mouvement de rapprochement judéo-chrétien est lancé par une femme qui s'appelle Elisabeth Bélançon. Et dans le comité d'honneur de ce mouvement, donc c'est le nom vraiment du groupe, hein, le mouvement de rapprochement judéo-chrétien, on retrouve des intellectuels tels que François Mauriac, Jacques Maritain ou Edmond Flegg, qui est un des fondateurs, aux côtés de Jules Isaac, de l'amitié judéo-chrétienne à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est surtout en 1938 que le pape Pie XI va donner un espoir de changement lorsque, dans un discours radiophonique, il dit « L'antisémitisme est inacceptable, spirituellement, nous sommes des sémites ». Ça, c'est vraiment un message extrêmement fort et qui donne beaucoup d'espoir aux juifs et aux plus philosémites chrétiens. Là où la Seconde Guerre mondiale constitue vraiment une césure, c'est que pendant la guerre, des solidarités interreligieuses, donc entre juifs catholiques, juifs protestants notamment, naissent. Et on parle, alors Madeleine Comte a signé un article sur les sauvetages et les baptêmes des enfants juifs par la congrégation Notre-Dame de Sion, mais c'est un exemple parmi d'autres. Il y a une résistance spirituelle chrétienne, que ce soit aussi bien catholique que protestante, qui se noue autour des revues Esprit ou encore Témoignages chrétiens à Lyon. Et peu connues sont les thèses de Pomerol qui sont diffusées à partir de 1941. Ce sont des thèses qui sont élaborées dans le milieu œcuménique, donc particulièrement par des protestants, et qui, en 1941, rejettent la collaboration et la haine des juifs. Il se trouve donc qu'en 1945, vraiment les relations interreligieuses ont changé. On s'incarne, s'enracine, et donc c'est pour ça que nous avons pris cette date, assez symbolique, il faut le dire aussi, pour le début de notre travail.
Nous, c'est vous.
Oui, c'est moi. en tant que historienne, il faut aussi détacher des grandes périodes. Il y en aurait trois entre 1945 et nos jours. La première, c'est 1945-1962. 1962, car c'est la fin de la guerre d'Algérie, d'une part, et c'est le tout début du Concile Vatican II, qui va là considérablement changer les choses sur le plan du magistère pontifical. Alors, cette période, ce sont donc ces années d'après-guerre qui sont placées essentiellement sous l'emprise du dialogue judéo-chrétien, on le comprend, en grande partie, en raison de la Shoah. La Shoah va ébranler fortement certaines consciences chrétiennes, je dis bien certaines, hein, pas toutes. Et puis, des événements symboliques vont avoir lieu très vite, dès 1947, avec la conférence de Seelisberg, on y reviendra plus tard, la création de l'amitié judéo-chrétienne, ce qui n'empêche pas, évidemment, les tensions de perdurer entre juifs, chrétiens et musulmans, à cause notamment du contexte international au Proche-Orient, mais aussi des crises plus nationales, comme l'affaire Finali ou encore la décolonisation au Maghreb. La seconde période, qui me semblait apparaître assez nettement, est celle qui s'étend de 1962 au tournant des années 1970-1980. C'est à ce moment-là que l'islam devient un interlocuteur à part entière, car vraiment, on va dire, visible dans la société française et de plus en plus visible aussi par le biais des lieux de culte qui commencent à émerger. Le Concile Vatican II pose les fondements d'une doctrine chrétienne de l'islam et du judaïsme qui n'aura de cesse de se préciser au fil des magistères pontificaux successifs. Il y a le Concile, mais il y a aussi la réception des préceptes conciliaires qui provoque une accélération des échanges clairement dans les années 60 et 70 et l'approfondissement de la connaissance mutuelle. C'est à peu près l'âge d'or des groupes interreligieux, mais cet âge d'or va aussi se poursuivre d'une manière un peu différente dans les années 80-90. Et cette dernière période donc, commence au début des années 80 et on va dire jusqu'à nos jours. Ma thèse, elle, était un peu plus restrictive puisque je m'étais arrêtée en 1997, année de la déclaration de repentance des évêques de France, qui était un événement important et national. Donc j'avais essayé justement de ne pas m'arrêter en l'an 2000 lors de la repentance du pape, parce que c'était ça s'insérait dans un contexte quand même plus international. Mais pour le livre, je suis allée jusqu'à nos jours. Voilà.
Bien. Oui, ce livre qui a obtenu, et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, le prix du Conseil régional d'Aquitaine, ce qui était tout de même à signaler, ça m'est revenu pendant que vous faisiez vos déclarations. Et je voudrais vous interroger sur le judaïsme, non sans préciser que quand les Amis d'Israël ont été condamnés en 1927 par le Saint Office, il est quand même dit « l'antisémitisme est une faute hein, » en toutes lettres, mais cette association va trop loin. Je le dis pour... Vous le dites dans votre thèse, mais je le dis par précision, parce que c'est tellement important dans les débats actuels. Et je voudrais vous demander donc où en est-on. Est-ce que vous pouvez tracer à grands traits le débat judéo-chrétien dont vous avez déjà parlé?
Un petit peu.
Et est-ce que vous pouvez brosser un bilan, dire où est-ce qu'on en est, chrétiens, juifs, où en est-on les uns et les autres? Et est-ce que vous pourriez peut-être parler de quelqu'un qui est cher à tous les historiens, à savoir Jules Isaac,
bien sûr,
auteur inoubliable du fameux Malé Isaac, et qui méritait cette question.
Oui, alors on va parler ici non pas du dialogue, mais des dialogues judéo-chrétiens tout d'abord. Hein, après, je pense qu'on parlera aussi des musulmans. Alors, on se rend compte, lorsqu'on travaille sur les dialogues judéo-chrétiens, qu'il y a deux approches qui reviennent assez systématiquement dans les instances, les organismes ou les groupes. Il s'agit d'abord du philosémitisme et... En deuxième point, de la lutte contre l'antisémitisme, ce qui n'est pas du tout la même chose. Alors, pour retracer l'histoire depuis 1945, à grands traits évidemment, il faut parler de la création de l'ICCJ. Alors, je vais essayer de mettre l'accent, c'est l'International Council of Christian and Jews, qui a été créé aux États-Unis, donc juste au lendemain de la guerre, afin d'éradiquer les préjugés et de trouver une solution aux problèmes qui peuvent se présenter dans les relations interconfessionnelles, interraciales et internationales. C'est donc une instance qui ne va pas être condamnée par l'Église catholique, mais qui va quand même la regarder avec beaucoup de prudence et conseiller à ses fidèles d'y assister, d'observer, mais de ne pas participer et surtout de ne pas prêter de locaux pour ces réunions. La première, d'ailleurs, grande réunion de cet organisme lycée-CJ se tient à Seelisberg, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui est un petit village en Suisse, et qui va réunir en 1947 une soixantaine de participants, juifs, chrétiens, donc catholiques et protestants. Parmi eux, Alexandre Safran, qui est le grand rabbin de Roumanie, Jacob Kaplan, qui est à l'époque l'adjoint au grand rabbin de France, mais aussi des laïcs qui, comme par exemple Fadielowski, sont d'origine protestante, mais voilà, qui se revendiquent plutôt laïcs et qui, eux aussi, sont des acteurs de premier ordre au sein de l'amitié judéo-chrétienne. Un texte en 10 points est issu de cette rencontre à Seelisberg. C'est une sorte de charte du dialogue judéo-chrétien qui aborde d'abord l'aspect théologique du désaccord judéo-chrétien. Parce qu'il faut bien mettre les choses à plat d'emblée et dire là où le bât blesse. Alors, il rappelle les racines communes aux deux monothéismes. Il demande à éviter les appréciations chrétiennes négatives à l'égard des juifs susceptibles de véhiculer, je cite, « une haine généralisée des juifs de tous les temps, y compris ceux d'aujourd'hui ». C'est cette réunion de Seelisberg qui va nouer les premiers liens d'amitié et le premier réseau judéo-chrétien, puisque M. Agostino disait que je m'étais engagée sur des terrains informatiques compliqués. J'ai essayé effectivement de dégager des liens qui pouvaient exister entre certains acteurs français et étrangers, mais qui avaient une influence en France toujours. Et donc de voir à travers les correspondances et les différentes archives que j'ai pu trouver, quels étaient ces réseaux et qu'est-ce qui présidait à ces réseaux. Donc je vous passe sur les détails de l'utilisation des logiciels, mais j'ai essayé de rendre ça un petit peu accessible. Et il y a ce premier réseau judéo-chrétien au début des années 1950 qui se détache assez nettement. Il se détache et il se noue autour de la personnalité de Jules Isaac. Alors Jules Isaac a d'emblée obtenu une entrevue, alors je reviendrai sur qui est Jules Isaac, mais il a d'emblée en 1949 obtenu une entrevue auprès du pape Pie XII et il fait passer les idées de Seelisberg au plus haut niveau. Elles inspirent d'ailleurs ces idées de Seelisberg un autre texte en 1950 qui s'intitule « Les points de Schwalbach, si je le dis bien, qui est élaboré par des théologiens allemands et qui affirme l'existence d'un Dieu unique aux juifs et aux chrétiens, la judéité de Jésus, la condamnation de l'assimilation des juifs aux ennemis de Jésus, soit la condamnation en tant que peuple déicide. Donc on voit qu'entre 1947 et 1950, le dialogue judéo-chrétien va se doter de textes fondateurs, mais il va aussi se vivre à l'intérieur de groupes comme l'amitié judéo-chrétienne. Ces rencontres internationales permettent donc d'abord de mettre en relation des individus et autour de la même nécessité, celle de dialoguer, celle de changer les mentalités en profondeur. Et c'est Jules Isaac, donc, agrégé d'histoire, né en 1877, qui fut soldat pendant la Grande Guerre et doyen de l'inspection générale en 1936. Ayant des origines juives, il est écarté de la fonction publique à partir du statut sur les juifs d'octobre 1940. Et il va énormément souffrir, lui et son entourage proche, de la Seconde Guerre mondiale et de la politique nazie, puisque en 1943, son épouse, Laure, et sa fille, Juliette, sont déportées, ainsi que son fils, Jean-Claude, et son gendre, Robert Boudeville. Son épouse et sa fille ne reviendront pas des camps d'extermination. Ce qui explique certainement qu'au lendemain de la guerre, il va décider de quitter l'inspection générale et de mener une lutte sans relâche contre tout préjugé véhiculant une image erronée du peuple juif. Il va commencer cette lutte en s'attaquant à certains écrivains très connus, tels que Daniel Rops, qui rédige un ouvrage qui s'intitule « Jésus en son temps ». Et dans cet ouvrage, il reprend la classique, si on peut dire, théorie du peuple déicide. Alors évidemment, Jules Isaac est outré. Il va rédiger une lettre assez virulente, même très virulente, qui va d'abord être refusée dans la revue Esprit, puis être acceptée dans la revue Europe, dans laquelle il sera donc publié. Et il est toujours soutenu par la rédaction protestante de la revue du christianisme social. Dans cette direction, il y a Jacques Martin et Jean-Jacques Beauvais, qui sont des protestants. Et ce dernier, d'ailleurs, est un pasteur. Voilà, et ça, ils vont créer ensuite des liens d'amitié. Et ces protestants seront toujours aux côtés de Jules Isaac. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, que Jules Isaac va songer avec deux amis, Samy Lattès, qui est connu pour son engagement dans le milieu de l'édition, et Edmond Flegg a fondé une antenne nationale de l'ICCJ, l'amitié judéo-chrétienne. En 1948, il dépose les statuts de l'association et forme le comité directeur. Jules Isaac, Edmond Flegg et Samy Lattès ne font pas partie du comité directeur. Ils souhaitent au contraire prendre certains reculs par rapport à ça. Et le président désigné est Henri-Irénée Maroux, le vice-président Jacques Martin, donc de la revue du christianisme social, et puis Henri Bédarida comme trésorier et Fadielowski comme secrétaire adjoint. Parmi les membres du bureau, quand même, certaines personnalités déjà. Jules Isaac, Edmond Flegg, bien sûr, le révérend père Danielou, le grand rabbin Jacob Kaplan, encore Léon Algazi, plusieurs personnalités que l'on retrouvera pendant de longues années comme membres actifs de l'amitié judéo-chrétienne. Alors, dans ces statuts, d'abord, la vocation de l'association est définie. Il s'agit de regrouper tous ceux et toutes celles qui, appartenant ou non à une confession déterminée, veulent travailler à l'établissement de la fraternité et de la paix spirituelle. Il s'agit de substituer ce qu'ils appellent l'enseignement du mépris. Il s'agit de substituer l'enseignement de l'estime à l'enseignement du mépris. Et évidemment, en excluant toute tendance au prosélytisme ou au syncrétisme. Jules Isaac est originaire d'Aix-en-Provence, ce qui explique donc que la section aixoise soit la maison mère de toutes les autres antennes qui vont suivre assez rapidement. Leurs activités, c'est l'organisation de conférences chaque année. Alors, au début, il est question simplement d'informer les nouveaux membres de l'association, puis de diffuser des conférences, des débats, même dans les autres sections de province. Alors, les premières sections qui émergent, ce sont celles de Lille, où le cardinal Liénard, qui est évêque de la ville, assisté du chanoine Alexandre Renard, vont s'investir d'emblée dans cette association. À Lyon, où un groupe informel est fondé en fait dès 1946 entre le catholique Émile Rodet et le chef éclaireur israélite qui s'appelle Alfred Lazare, et qui ont noué de solides amitiés déjà pendant la Seconde Guerre mondiale, des résistants notamment. Ils vont se rattacher officiellement à l'amitié judéo-chrétienne en 1949. Et à Marseille, où au départ, c'est souvent Jules Isaac qui fait le lien, qui est un personnage de contact entre plusieurs personnes et beaucoup aussi dans le milieu enseignant. Alors à Marseille, par exemple, c'est une certaine mademoiselle Honora qui est professeure d'histoire-géographie et impliquer progressivement le grand rabbin Israël Salzer, le pasteur Jacques Marchand et un prêtre, le père Jean Cardonnel. Donc, ils vont pouvoir à leur tour créer une section à Marseille. Généralement, ces sections de l'amitié judéo-chrétienne prennent naissance, alors plutôt dans le sud de la France au départ, c'est assez étonnant, je n'ai pas d'explication. Certaines ont une existence un petit peu éphémère, et c'est le cas de Bordeaux. Alors, en 1948, le père Genevoix, qui est dominicain, ancien professeur d'histoire des dogmes, essaie de lancer un groupe, qui porte son nom d'ailleurs, mais visiblement, ils n'ont pas beaucoup d'adhérents, et leur activité cesse assez rapidement. C'est un peu plus tard, en 1955, qu'une certaine Madame Gaden, je ne sais pas, peut-être certaines personnes ici l'auront connue, souhaite relancer le groupe et elle prend contact avec le rabbin Joseph Cohen. Le clergé bordelais se montre assez enthousiaste vis-à-vis de cette initiative, de même que les pasteurs. Mais les juifs vont bouder cette initiative et on lit dans une correspondance « et ils n'ont pas tort ». Alors ça, je n'ai pas encore réussi à savoir pourquoi ils n'auraient pas tort. Visiblement, il y avait des tensions déjà qui ont un petit peu empêché l'amitié judéo-chrétienne de vivre de manière un peu durable à Bordeaux. Mais il y aura une tentative dans les années 1970 qui, cette fois-ci, sera beaucoup plus viable. Alors toujours Jules Isaac va poursuivre cette quête sans relâche de justice, de vérité. Il fait une sorte de travail de veille idéologique. Et à chaque fois qu'un ouvrage lui paraît suspect d'antisémitisme, il le dit et il publie afin que tout le monde le sache et qu'il y ait des rectifications faites dans ces ouvrages-là. C'est aussi, je pense, de là qu'il tient une réputation de personnage au caractère irritable, très droit et presque un esprit trop passionné pour certains. Donc il va attirer quand même les critiques, mais personne ne lui reprochera son investissement, son engagement et son militantisme contre l'antisémitisme. D'ailleurs, dans son ouvrage qui s'intitule « Jésus et Israël » qu'il publie en 1948, il qualifie l'antisémitisme de « lèpre dont les racines seraient issues d'une tradition séculaire à base d'ignorance, d'erreur ou d'iniquité ». Alors, comme je vous le disais, ce personnage attire quand même les foudres de certaines personnalités, de certains intellectuels, y compris parmi ses amis proches. Et Henri Irénée Marou, qui est le président de l'Amitié judéo-chrétienne, va déclencher, on va dire, une colère vis-à-vis de Jules Isaac à travers des articles interposés. Et Henri Irénée Marou finit par reprocher à Jules Isaac son antichristianisme. Et Henri Irénée Marou ne supporte pas que Jules Isaac puisse l'accuser d'avoir une responsabilité collective dans le génocide juif. Donc là, on est arrivé à des conflits interpersonnels qui vont avoir de lourdes répercussions dans le fonctionnement de l'amitié judéo-chrétienne, jusqu'à une crise en 1955 qui va aboutir au remaniement quasi total du comité directeur. Mais il subsistera toujours, je le détaille longuement dans l'ouvrage, il subsistera toujours des problèmes entre notamment le comité directeur et puis les antennes locales.
On va peut-être passer à une autre question. Toutes les questions sont capitales dans le dialogue interreligieux. Justement, devant des personnes responsables et qui connaissent bien l'islam, vous allez maintenant vous essayer, avant-dernière question, à nous parler justement des questions du dialogue avec l'islam. Alors, je vous pose la question, pouvez-vous essayer, comme ça, à livre ouvert dans votre thèse, de nous dire que représente ce dialogue, donc, pour les trois partenaires
chrétiens,
protestants et catholiques, évidemment, juifs et musulmans eux-mêmes.
D'accord.
Et après, on terminera, gardez un peu de temps pour parler de Bordeaux.
J'ai prévu une question.
gardez un peu de temps.
Alors, les musulmans, comme je vous le disais, il y a déjà un attrait pour l'Orient et pour l'islam déjà dès le 19e siècle. Et qui se confirme avec l'essor de l'islamologie jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et en 1945, l'ouverture du procès en béatification de Charles de Foucault, qui a donc beaucoup inspiré des islamologues du XXe siècle, va relancer cet intérêt pour l'islam. Le père Albert Périgard, par exemple, qui est originaire de Bordeaux, décide en 1926 de partir vivre au sud de l'Algérie et il va se fixer... Au début, il me semble qu'il était au sud de l'Algérie au début. Et après, il va au Maroc, dans le village d'Egbab. Voilà. Il fonde...
Objection rejetée.
Non, il y fonde une fraternité de prière, de pauvreté, de travail manuel, de renoncement et de charité. Il va ouvrir un dispensaire où il va accueillir les plus pauvres. Et dans les années 1930, la presse catholique va commencer à parler de lui, mais il va préférer rester discret. et revenir par contre régulièrement à Bordeaux, prêcher sur sa vie parmi les musulmans. En 1952, lorsque la crise marocaine se déclenche, le père Périguer va prendre position et va vouloir alerter l'opinion française. Alors, il dit « La France est au Maroc en état de péché mortel ». Mais son engagement anticolonialiste déplaît fortement. En l'occurrence, le général Miquel, qui est commandant à Meknès, l'accuse d'avoir établi dans ce petit village marocain une mentalité révolutionnaire et d'y prêcher le communisme. Alors Albert Périguer, dans une lettre au père Michel Lafon, ici présent, qui est son successeur, aussi bien spirituellement que sur le terrain, hein, si je peux m'exprimer ainsi, va livrer son inquiétude à ce moment-là à propos de la rencontre islamo-chrétienne. Et il écrit au père Michel Lafon, « La rencontre est manquée si l'islam rend le christianisme responsable de tant d'iniquités dont souffrent les musulmans. Alors que faire ? Peut-on se taire devant l'injustice ? Il faut dire que les musulmans sont à ce moment-là surtout perçus par le prisme effectivement de la décolonisation et le prisme migratoire. En 1947, lorsque la loi accorde la citoyenneté française aux Français musulmans d'Algérie, on compte quelques centaines de milliers d'Algériens, quelques milliers seulement de Marocains et également quelques Tunisiens, une communauté qui va par contre particulièrement s'étoffer entre les années 1950 et 60. Et cet afflux de migrants va d'abord occasionner des initiatives à connotation sociale. Alors je citerai un seul exemple, c'est l'AMANA. L'AMANA, c'est l'assistance morale et l'aide aux Nord-Africains, qui va être fondée en 1947 à Paris par les Pères Blancs. Les Pères Blancs qui vont toujours prendre beaucoup de place dans les rencontres islamo-chrétiennes et qui sont destinés généralement à l'alphabétisation des travailleurs étrangers, en particulier des musulmans. Il y a quelques tentatives d'institutionnalisation des relations avec l'islam, enfin surtout bon, du côté catholique. En 1956, le cardinal Gerlier va tenter de créer une commission épiscopale sous l'autorité de Mgr Maury, qui est alors président des œuvres pontificales missionnaires, et c'est toujours dans le cadre d'une pastorale des migrants. Ça caractérise vraiment cette période. Le Concile Vatican II va lui donner une nouvelle dimension au dialogue avec l'islam. Le Concile Vatican II va dans la déclaration Nostra Aetate, en quelques lignes, déclarer que l'Église regarde aussi avec estime les musulmans qui adorent le Dieu un, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de la terre qui a parlé aux hommes. Et dans ce texte également, il y a une volonté de pacifier les relations qui ont été parfois ombrageuses entre les chrétiens et les musulmans. Dans ce texte, le Concile exhorte tous, donc chrétiens et musulmans, à oublier le passé et à s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle, ainsi qu'à protéger, promouvoir ensemble pour tous les hommes la justice sociale, les valeurs morales, la paix et la liberté. Et le Concile Vatican II va impulser la création notamment du secrétariat des relations avec l'islam en 1973, qui dépend de l'Assemblée des évêques de France. Les juifs et les musulmans, c'est quand même plus compliqué. Alors, il y a des tentatives de création de groupes dans les années 1960, notamment une association qui s'appelle « Pour une amitié judéo-arabe ». Le problème, c'est qu'il y a toujours superposition entre dialogue à la connotation politique, évidemment, le problème au Proche-Orient, qui distille régulièrement des tensions en fait, entre les deux communautés en France. Et justement, ces groupes sont là pour essayer d'apaiser ces tensions, mais ils ont toujours du mal à les surmonter. Donc ça, c'est vraiment un exemple, par exemple, d'échec sur la longueur. Des relations entre juifs et musulmans. Alors, les juifs et musulmans peuvent par contre se retrouver dans des associations dites abrahamiques, c'est-à-dire qui regroupent juifs, chrétiens et musulmans, mais pas ensemble seulement. Quelques exemples ponctuels. Le Cercle des intellectuels juifs de langue française va décider en 1977 de consacrer son année, donc son colloque annuel, à la communauté musulmane. Mais ça s'arrête là. Voilà, c'est une étude vraiment très, très intellectuelle et ça ne va pas plus loin. Il va falloir attendre les années 2000 et 2004 pour que le rabbin Michel Serfati lance l'Amitié judéo-musulmane de France et qui sillonne la France chaque année avec son bus de l'amitié. Voilà, donc là, oui, c'est une initiative purement, on va dire, juive et musulmane. Voilà, donc je vais peut-être...
Alors, le côté musulman n'apparaît pas trop dans votre réponse.
Alors, si, si, mais je vais en parler après dans les cas locaux.
Ah, voilà. Tout est, écoutez, alors, tout est pour le mieux dans le meilleur
voilà.
des mondes.
Je vais essayer.
Dernière question, puisque je pense que la salle aura ensuite des questions à vous poser. Vous, votre, l'intérêt essentiel de votre travail, bien sûr, c'est d'avoir traité ce sujet difficile. Ça vous amènera des louanges, ça vous amènera des critiques. Bon, mais ça, c'est au risque et péril de la recherche historique. Et c'est de lier les éléments généraux aux éléments locaux.
Oui.
Et vous avez choisi de nombreuses villes, Lyon, Marseille, Strasbourg, je crois.
Un petit peu.
Un petit peu. Paris. Évry.
Oui, particulièrement Évry.
Évry, oh là là.
Oui.
Je connais bien, et effectivement, oui. c'était le cas qu'il fallait prendre. Et puis Bordeaux.
Oui.
Alors, puisque nous sommes à Bordeaux, où en est-on ? Qu'auriez-vous à dire du cas bordelais dans le domaine du dialogue interreligieux ?
Oui.
Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez dire un bilan, des grands traits ?
Je vais essayer. Alors, c'est vrai qu'au départ, je voulais même consacrer ma thèse au sud-ouest.
Oui,
mais j'ai été confrontée à un problème de source. Alors, j'ai dû un peu... Et puis, j'ai trouvé que c'était intéressant, finalement, de comparer les dynamiques régionales ou même urbaines, puisque il s'agit généralement, mais de moins en moins, hein, au cours des années 90... d'initiatives qui peuvent naître dans des abbayes, par exemple, vraiment à l'écart des centres urbains. Alors, pour le cas de Bordeaux, si on remonte un petit peu, donc, puisque c'est quand même mon travail d'historienne, il y a par rapport au dialogue judéo-chrétien une sympathie qui est assez ancienne, entre les responsables catholiques et les responsables israélites. Par exemple, en avril 1968, j'ai trouvé dans le bulletin diocésain L'Aquitaine, qu'à l'occasion des obsèques du cardinal Paul Richaud, qui était archevêque de Bordeaux, hein, le vicaire général Monseigneur Galissaire adressait un message aux chrétiens et aux juifs, qui était celui-ci, « Cherchons les points communs qui nous permettent de nous reconnaître » ou cherchons à découvrir chez l'autre ce que nous ne connaissons pas, ou connaissons de manière imparfaite, insuffisante, inexacte peut-être. Et il semble avoir été entendu, puisque deux ans plus tard, au début de 1970, une antenne de l'amitié judéo-chrétienne, René, présidée par le docteur Fruchard, et... également impulsé fortement par Claude Lederer, qui à ce moment-là prend le secrétariat. L'ancien doyen de la faculté de droit, André Garrigou-Lagrange, va lui appartenir au comité d'honneur. Et cette antenne de l'amitié judéo-chrétienne va se révéler particulièrement active en organisant 5 à 6 rencontres annuelles, des conférences, mais aussi un concert symphonique au Grand Théâtre de Bordeaux, qui va attirer près de 900 personnes. Donc ça fait quand même connaître aussi l'initiative. Et surtout, elle va se faire connaître parce qu'elle implique les responsables religieux, ce qui évidemment va conférer une autorité supplémentaire et attirer davantage les fidèles. Les musulmans, alors les premiers contacts là aussi vont se dérouler un peu plus sur le terrain du social. Et à la fin des années 1960, l'alphabétisation des Nord-Africains est assurée par exemple le Secours populaire ou encore les Sœurs de la Sainte Famille. Et les premiers cénacles informels dans lesquels s'instaure véritablement le dialogue entre chrétiens et musulmans apparaissent au cours des années 1970. Une enseignante d'histoire-géographie, hein, encore, dans le dialogue interreligieux en général, ils occupent quand même une place assez importante, qui s'appelle Marie-Thérèse Naisson, participe activement aux réunions du Centre catholique étudiant de la Vieille Tour à Pessac. Ce centre rassemble étudiants, enseignants et religieux, musulmans et chrétiens. Et en 1979, elle décide de fonder son propre groupe dans lequel il y a entre 15 et 20 chrétiens, bon ça dépend des réunions, et 8 à 10 musulmans. Et des rencontres vont se dérouler chaque mois de manière donc régulière, mais assez confidentielle tout de même. Elle organise une rencontre au Grand Séminaire de Bordeaux. Et cette rencontre va bien se passer sur l'instant, mais l'intervention d'une maître de conférence à l'Université du Caire, donc une musulmane, se prononce sur la place de la femme dans l'islam, et ceci va, a posteriori, provoquer de vives réactions au sein du groupe et le départ de certains musulmans qui ne vont plus y participer. C'est ensuite en avril 1986 qu'un groupe islamo-chrétien voit le jour sur la rive droite à Lormont, qui est fondé par deux catholiques, dont M. Georges Jousse, ici présent, et qui vit alors à Lormont et qui a une conscience morale, pour avoir vécu la guerre d'Algérie, de la nécessité de la décolonisation et de la nécessité du dialogue, tout simplement, car musulmans et chrétiens partagent un quotidien. Pas forcément facile dans une commune où on compte alors 30% de chômeurs. Et quand on est parent de jeunes qui sont dans une situation assez compliquée, eh bien, il y a des liens qui se nouent. Le père Girardot, qui est alors prêtre à ce nom, les met en relation, vous me coupez si je me trompe, avec l'âge d'Ami Braise, si on dit comme ça.
Oui.
Un musulman engagé donc dans la vie de sa communauté au sein de l'AMG, l'Association des musulmans de Gironde. Et le groupe qui se donne le nom de Groupe chrétien musulman rive droite, naît sur un fond à ce moment-là de tension, puisqu'il y a l'attentat, je crois, de Tati. Voilà. Ce groupe va s'étoffer assez rapidement. Il est rejoint par des étudiants, des personnes, des imams, profession libérale, à l'instar de Marwan El Bakour, Boubacar El Adjamor et plus tard Tarek Oubrou. Le principe de base, c'est pas de débat entre religions, mais des témoignages respectifs de croyants dans une écoute mutuelle. Et le fonctionnement se veut assez souple, convivial. À travers les archives que vous avez bien voulu me confier, j'ai remarqué que la composition du groupe et le nombre de participants variaient assez considérablement entre les réunions, au cours des années aussi, qui suivent la création. Au maximum, j'ai compté jusqu'à une trentaine de personnes par réunion, au minima une dizaine. Voilà, c'est à peu près l'ordre d'idée. Alors, au début des années 1990, le groupe commence à être connu, hein, malgré vous, mais bon. Et à l'occasion de la guerre du Golfe, vous publiez un communiqué à l'attention des habitants de nos cités, où vous appelez à la paix et à la fraternité, et plus de 10 000 tracts, quand même, ont été distribués dans les lieux de culte. L'année suivante, quelques membres sont reçus par l'archevêque de Bordeaux, Mgr Haït. Et cette volonté de militants vraiment de la rencontre islamo-chrétienne et plus généralement de ces militants de la rencontre interreligieuse qui est souvent donc associée au soutien des responsables religieux va créer une dynamique très favorable dans la région bordelaise. Parce que du côté protestant, il y a aussi le centre du A, le centre A32, qui devient lui aussi un espace de recherche où se réunit même parfois l'amitié judéo-chrétienne de Bordeaux, et le centre Yavne, le centre communautaire juif, qui devient beaucoup plus actif à la fin des années 1990, animé par Michel Roche, Hervé Rébi, et qui se trouve là aussi un espace de dialogue et de pluralisme religieux. Voilà, alors sans présenter un paysage religieux aussi varié parfois que dans d'autres villes françaises, hein, on l'a vu par exemple avec Évry, Bordeaux se situe néanmoins dans une moyenne haute en termes de rencontres interreligieuses par la qualité et la pérennité de ces initiatives. Et cela, on s'en rend compte également dans d'autres exemples locaux, est en grande partie le fait d'acteurs particulièrement impliqués dans l'ouverture à l'autre, souvent depuis longtemps d'ailleurs, et la preuve en est encore aujourd'hui, ceux qui participent effectivement à l'ancrage de cette tradition éminemment vertueuse. Voilà.
Bien, alors pour conclure, on ne peut pas terminer sur une vision irénique.
Non.
Quand on est historien, alors quelle conclusion tirez-vous de votre travail? C'est ce que vous dites est tout à fait bien, mais C'est une conclusion morale.
Oui, oui, bien sûr.
Donne-nous une conclusion historique.
Alors, il se trouve que le dialogue interreligieux revêt vraiment des formes très, très diverses, que ce soit des rencontres très académiques, universitaires, des colloques, la théologie également, qui est essentielle dans le dialogue interreligieux, mais aussi des rencontres entre simples citoyens, finalement, qui cherchent à se connaître. Voilà, c'est un terme générique, dialogue interreligieux, qui revêt énormément de formes différentes, d'acteurs différents. J'ai essayé aussi d'avoir une vision un peu sociologique dans mon travail, c'est-à-dire que il y a quand même beaucoup plus d'hommes que de femmes qui s'impliquent, parce qu'il y a beaucoup déjà de responsables religieux, or il y a peu de femmes, hein. faut être clair.
Mais dans le christianisme, les femmes progressent beaucoup,
oui,
hein,
oui,
en,
oui.
Nombre, en nombre, hein, pour le reste,
oui, voilà.
Pas de jugement.
c'est un mouvement donc multiforme qui attire toutes les générations. Alors, c'est vrai que pour toucher les jeunes, c'est un peu plus difficile, mais il y a toujours des associations. Charles Mercier, dernièrement, présentait l'association Coexister, qui est toute récente, hein, qui doit avoir été créée, je crois, en 2009 ou 2010. Voilà, qui touche donc à travers des médiatisations, une communication beaucoup plus moderne, certaines tranches d'âge, voilà, plus que d'autres. Et on remarque quand même depuis les années, en fait, depuis les attentats, même plus tôt, je dirais depuis l'assassinat des moines de Tibrine, et d'autant plus depuis les attentats du 11 septembre 2001, on assiste quand même à une nette politisation du dialogue interreligieux. Voilà. Alors, des rencontres qui se font sous le contrôle, je dirais pas le contrôle, mais avec les pouvoirs publics et parfois même qui s'élargissent à la franc-maçonnerie, au bouddhisme. Voilà. Donc, est-ce qu'on ne va pas perdre un petit peu le contenu, on peut se poser la question quand même, voilà. Et le dialogue interreligieux souvent aussi est relié à la question de la laïcité.
Écoutez, nous vous remercions pour ces réponses qui, je crois, devant des témoins en plus,
mais
ce
oui.
qui est toujours gênant pour l'oratrice. Je pense que, personnellement, moi j'ai été très content de votre travail, que vous avez fait seul, comme d'habitude.
Oui.
Le directeur de thèse dirige, c'est le cas de le dire, hein, mais vous avez pris toutes vos initiatives seul, avec beaucoup de courage, beaucoup d'ardeur, et souvent, je vous dis, vous m'avez même étonné. Même si je suis peu étonnable dans ce domaine, voilà, vous m'avez étonné.
Merci.
Et vous donnez là un livre tout à fait lisible, voilà, c'est ce qui est intéressant.
Merci.
C'est une étape, une pierre miliaire, bon, qui un jour sera développée peut-être par
Bien
vous.
Sûr.
Bien, nous remercions Delphine Dussert,
merci à vous,
qui est à votre disposition si vous voulez lui faire signer quelques ouvrages. Merci.